Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, mon nom est Claude Saint-Georges, bienvenue à l'émission À nous le futur. Merci à Pierre Flynn pour cette introduction musicale, merci à CFAC de nous permettre de nous exprimer. Nous exprimer pour dire quoi? Bon, bien écoutez, là, aujourd'hui j'ai bien des choses à dire. Là. Bienvenue très très fort à cette émission, bienvenue beaucoup à la nouvelle cohorte à l'Université de Sherbrooke. C'est pas encore les alphas, c'est encore les X, Y, Z qui sont ici. Les alphas, ça va être dans 3 ans à peu près. Si on est en 2010, tenez-vous bien, ça va peut-être brosser un petit peu plus, je ne sais pas. Fait que, tu sais de quoi qu'on va parler aujourd'hui, le thème central, c'est l'urbanité ou les villes ou les cités, là. Je ne sais pas si je vais me rendre là parce que j'ai beaucoup de choses à dire qui vont tourner autour du pot d'ici ce temps-là. Et puis, j'ai une chose extrêmement importante à vous dire. C'est parce que j'essaie de faire un résumé de l'émission là, pour les gens qui l'ont déjà écouté, mais surtout pour ceux qui ne l'ont pas écouté. D'autant plus que j'ai été 4 semaines en état de repos. Alors, donc, je fais un signal d'alarme pour attirer votre attention. Fait que... Donc, je voudrais vous dire que nous avons un énorme potentiel social pas réalisé encore. C'est celui que j'appelle, entre guillemets, la réussite de l'humanité. Joyeusement, fermez les guillemets. Pour réaliser ce gros potentiel, à mon avis, ça commence en 1949. Il y a eu un arrêt vers 1980 avec... un recommencement vers 2020. Mais entre 1980 et 2020, ça ne s'est pas endormi, là, loin de là. Là. J'ai participé moi-même à l'écriture un petit peu, parce que j'ai été invité, et à la publication d'un manifeste international qui s'appelle « À la croisée des chemins », qui parlait de la transition de l'ère industrielle à l'ère post-industriel qu'on appelait l'ère des communications, qui s'appelle aussi l'ère de la compassion. Et puis, bien que ça fait 40 ans que ça a été fait, je ne crois pas que la transition est encore terminée. Donc, c'est entre 1980 et 2020, c'est ce qui s'est passé de gros, là. Et puis, ce que je veux dire par un arrêt entre 1980 et 2020, je veux dire que ben que en écoutant, écoutez-moi de continuer à parler et ça va être clair. Donc, en 1949, il y a Linus Pauling, qui est la seule personne qui a gagné 2 prix Nobel, le 2 prix Nobel de la médecine et le prix Nobel de la paix. On le connaît plus par les travaux sur la vitamine C. Il proposait des doses, méga doses incroyables de vitamine C. Il faisait scandale souvent. Et puis, il a développé une nouvelle médecine qui s'appelle la médecine orthomoléculaire pour le corps physique et le corps psychologique, parce qu'il y avait la psychiatrie orthomoléculaire. En gros, ça veut dire la bonne molécule à la bonne quantité au bon moment. Et puis, donc, M. Pauling, ce qui est vraiment d'intérêt, c'est qu'il a écrit en 1949 un livre qui s'appelle « No More War ». C'est-tu pas intéressant et stupéfiant que quelqu'un écrit en 1989 « Plus jamais la guerre », n'est-ce pas? Moi, ça m'étonne et je remercie M. Pauling d'avoir écrit ça. Même si aujourd'hui, à Gaza et à Ukraine, on semble pas n'avoir lu son livre, qui est une conséquence de ce qui se passe, de ce que les États-Unis décident. Et puis, après ça, en 1961, il y a un ingénieur industriel qui s'appelle Seymour Melman, Est-ce que vous dormez? Êtes-vous réveillé? Oui, ça va bien? OK, on continue. Seymour Mallman a écrit le livre The Peace Race. Deuxième étonnement extraordinaire, The Peace Race. Après 1961, je n'ai entendu parler que moi que de war, de, tu sais, de, comment est-ce que ça s'appelait, donc? De war, de la guerre froide, et puis de la guerre permanente et la course aux armements permanente. Alors, merci beaucoup à Seymour Mallman, ingénieur industriel, professeur à l'Université Columbia, qui a écrit en 1961 « The Peace Race ». Félicitations. J'ai rêvé il y a 3 semaines à peu près, c'était marqué « Peace Education ». Alors, ça m'a frappé. Et puis, donc, M. Mallman a écrit 20 d'autres livres pour analyser la guerre, la structure de guerre américaine, la structure du Pentagone, en disant que la première industrie américaine, c'est l'industrie de guerre, OK? C'est 51% de l'industrie américaine. Et puis, lui, il a analysé ça, puis il a dit surtout que ça avait des conséquences négatives sur l'état de santé de l'économie américaine. On n'entend pas dire ça souvent parce que c'est très caché, là. C'est vraiment le contraire de MAGA, « United States Great Again ». D'après ce que je lis, selon ce que Seymour Mallman dit, elle n'est pas great, elle n'a jamais été great, parce que toute son infrastructure est détériorée, puisque à peu près 23% du budget va à l'armée et à la production d'armement. Entre parenthèses, lorsque Mikhail Gorbatchev est devenu président de l'Union soviétique, vous, là, la nouvelle cohorte d'étudiants, là, vous ne connaissez pas ça, l'Union soviétique, ça a été détruit à peu près en 1988-90. Ce n'était pas le but de Gorbatchev parce que lui, il avait l'intention de faire une révolution basée sur la démocratie qu'il appelait la perestroïka et sur la transparence qu'il appelait glasnost. Est-ce que j'ai une voix trop endormante? À m'écouter, je me demande si ce n'est pas le cas. Là. En tout cas. Fait que M. Gorbatchev avait une intention naïve. D'ailleurs, Poutine l'a critiqué en le trouvant trop naïf, mais il était vraiment très intéressant. J'ai un livre de lui qui s'appelle Perestroïka et vous pouvez le lire. Je vous encourage à lire les livres de Gorbatchev ou à son sujet. Parce qu'il y avait depuis 1945 une course aux armements entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et puis M. Gorbatchev s'est rendu compte, il est tombé sur le dos après avoir fait une recherche. Puis d'ailleurs, tu sais, il a cherché fort là, parce que les chiffres étaient cachés et difficilement trouvables. Il s'est aperçu que 40% du budget de l'Union soviétique allait à la production des armements. Alors il s'est dit, c'est pour ça que ça va si mal, que les gens sont pauvres, que toutes les infrastructures sont à refaire. Alors il faudrait réduire le budget des armements. Puis c'est lui qui a proposé en premier de réduire de beaucoup l'armement nucléaire. Ce qui, bon, en tout cas, ça a entraîné une réduction, là. Alors, je reviens à Seymour Mallman qui décrivait dans ses livres la destruction de l'économie américaine par la trop grande portion d'argent du budget américain dans l'armement. Et puis, j'apprécie beaucoup ses livres. Il y avait comme The Defense Economy ou bien Pentagon Capitalism, dont je me souviens. Et puis, il y en a un troisième que j'ai en tête et c'est celui que je préfère, là. Le titre, c'est Disarmament and Conversion. Donc ça, c'est son dernier livre, là. Pas très épais en nombre de pages, mais super clair et super génial. Il montrait comment faire la transition de l'industrie militaire à la société civile. Et puis, il disait surtout pourquoi le faire. Alors, troisièmement, en 1969, il y a Buckminster Fuller qui a écrit le livre « Operating Manual for Spaceship Earth ». Il y a quelqu'un de Sherbrooke qui l'a traduit, c'est René Pelletier. C'est le manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre. Super intéressant. Buckminster Fuller, il a été jeté dehors de l'Université Harvard une fois, puis lui-même a quitté une deuxième fois. La première fois qu'il a quitté, il était jeune, il avait 19 ans. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dépensé toute sa bourse pour payer des repas à sa blonde là, et ses amis qui faisaient partie d'une pièce de théâtre. Alors là, bien, il n'y avait plus de bourse. Fait que ses parents ont dit, écoute, mon jeune homme, tu es un petit peu trop dépensier, on va t'envoyer réfléchir au Québec, au Canada, à Sherbrooke. Parce qu'à Sherbrooke, au Moulin Coton, ton oncle est directeur, il est gérant, puis lui, il veut te montrer comment c'est quoi, te montrer à vivre, c'est quoi vivre, tu sais. Fait que Buckminster Fuller a passé un an à Sherbrooke en 1914, au Moulin Coton. C'est sur la rue du Pacifique. Et puis, il est retourné à Boston, puis là, il a eu une guerre, à peu près, là. Alors, il s'est engagé dans la marine. C'est là qu'il a commencé à apprendre beaucoup. Il était très intéressé parce que le savoir enseigné à l'université était trop parcellaire, trop divisé, alors que lui avait une tendance à l'unité. J'ai d'ailleurs moi-même un sentiment d'unité, malgré la pléthore de sujets dont parle l'émission. Il y a une unité. Finalement, c'est peut-être un changement de paradigme. C'est du paradigme newtonien, cartésien, au paradigme holistique, féministe et pacifique, dont parle surtout le philosophe Fridtjof Capra. Et je vous invite à réfléchir, à lire ses livres, Fridtjof Capra, en plus de ceux de Buckminster Fuller. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je vais commencer à suivre en septembre, en anglais, en Californie, par Zoom, un cours sur l'éco-littératie, l'alphabétisation à l'écologie. Alors, je vais vous en parler une fois de temps en temps. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça, en 1969, Buckminster Fuller qui écrit le livre « Operating Manual for Special Purpose ». Et en 1980, il écrit le livre « Critical Path ». Parce qu'il a fait des expérimentations, des inventions. C'est lui qui a inventé le dôme géodésique que l'on voit au pavillon des États-Unis, sur l'île Notre-Dame. Il parlait de synergie, le tout est plus grand que la somme des parties, où on ne peut prévoir le comportement du tout à partir de la connaissance du comportement des parties. Et c'est lui qui a commencé à dire le premier, on peut faire plus avec moins. Alors, cet exemple de dôme géodésique, c'est un exemple de faire plus avec moins parce qu'il a économisé beaucoup de tonnes de béton en se servant comme vecteur pour que la structure tienne. La structure géodésique que lui appelle triangulaire. Alors, aujourd'hui, malheureusement, tu sais, les oligarques, là, les milliardaires qui possèdent 50 % de l'économie mondiale, là, eux autres, ils se sont servis de ce principe de faire plus avec moins. Ils l'ont détrituré, ou je ne sais pas trop, mal formé. Ils ont dit, au lieu de faire plus avec moins d'énergie et de matériaux, nous autres, on va faire plus avec moins d'employés. On va se mettre à mettre en chômage du monde. Tu sais, c'est une mal compréhension dont on subit encore les conséquences, parce que, par exemple, les jeunes, aujourd'hui, ont de la misère à trouver du travail l'été. Alors, donc, Buckminster Fuller, dans son livre de 1980, c'est ça là, qui moi, m'a jeté à terre, qui finalement m'a motivé pour finalement venir ici, là, tu sais, aujourd'hui. Parce qu'une autre parenthèse, j'étais ici à l'université en 1980 à peu près, et puis je me promenais, j'étais en service social, puis j'étais dans un couloir, puis je voyais une station de radio, c'était CFLX. Puis je regardais ça par curiosité, puis là, il y a une fille qui travaillait à CFLX, elle me dit « Ça te tente-tu de faire une émission? » Ben, j'ai dit « Pourquoi pas? » Puis quand j'ai ouvert le micro, je ne savais pas de quoi j'allais parler, puis j'ai dit « Bonjour, bienvenue à l'avenir. » Je dis « L'avenir » parce que j'ai étudié en cuisine d'aliments naturels à Boston. Et puis moi, je n'ai jamais entendu parler d'avenir au Québec, surtout en Abitibi, de la part de mes parents ou de mes professeurs au primaire, au secondaire et même à l'université. Je n'avais jamais entendu parler d'imagination, mais c'est le professeur japonais de cuisine qui me disait toujours « Always think about the future ». Pensez toujours à l'avenir. Lui, il parlait des cuisiniers qui devraient penser au futur menu. Mais moi, j'appliquais ça au niveau social. Alors, j'étais très impressionné que ce soit un cuisinier qui nous enseigne à penser au futur et qui nous enseigne aussi à avoir de l'imagination. Alors, je suis là à CFLX, j'ai fait mon programme. Puis aujourd'hui, CFLX n'existe plus à l'université, c'est déménagé en ville et à l'université maintenant, c'est CFAC. Bravo à CFAC, merci pour ton existence. Alors, moi, j'ai voulu me servir de la radio pour parler de ce potentiel de Buckminster Fuller qui disait que maintenant, nous avons tout ce qu'il faut en termes de connaissances, en termes de technologie et de ressources pour donner un bon niveau de vie à toute l'humanité. Ça, c'est la première fois que j'entendais parler de ça, parce qu'avant, Darwin disait c'est la loi du plus fort, et Malthus disait qu'il y aura toujours plus de population qu'il y aura de ressources pour les satisfaire. Alors, il faut leur amener une révolution en faisant plus et avec moins, et puis aujourd'hui, on pourrait dire en faisant mieux avec moins d'énergie et de matériaux, on peut arriver à ce que tout le monde vive une belle qualité de vie, écologiquement et pacifiquement. Alors, bang, j'essaie de distribuer ce message le plus possible. Puis, comme je dis, à la croisée des chemins en 1983 à peu près, ça le dit en des mots plus simples que nous pouvions nous parler les uns les autres pour, en faisant la transition de l'ère agricole et l'ère industrielle à l'ère post-industrielle qu'on appelle celle des communications. On est en plein dans l'ère des communications. Et aussi dans celle de la compassion. Nous ne sommes peut-être pas assez dans celle de la compassion en ce moment. Et là, il est 11h15, je devrais faire une publicité. Je reviens tout de suite. À tantôt. Alors, rebonjour, bienvenue encore à l'émission « Nous, le futur ». C'est Claude Saint-Jean et je spécifie à nous le beau futur. Beau futur, on t'appelle, on a besoin de toi. On a le goût de te voir, ça presse. Viens-t'en. Je vous disais tout à l'heure que Buckminsterfuller nous a dit que nous pouvions avoir la réussite de l'humanité écologiquement et pacifiquement. Nous en avons la capacité, nous en avons la possibilité. Nous avons l'opportunité, fait que c'est à nous de travailler dans ce sens-là. Puis cette émission peut aider à ça, j'espère. Donc... je sais pas si le son est bon. Là. Tout à l'heure, il y a eu deux tunes qui jouaient en même temps. Désolé pour ça. C'était Endorphine qui jouait. Et puis, comme nouvelle, je voudrais dire que... Ça va-tu bien, tout le monde là-dedans? Juste un instant. Merci. Fait que comme nouvelle, qui se passe aujourd'hui? Là. Les Nations Unies nous disent... qu'il propose l'interdiction des essais nucléaires parce que c'est un traité inachevé. La seule voie vers l'abolition des essais nucléaires passe par une interdiction juridiquement contraignante, respectée, appliquée et surtout mise en œuvre, a affirmé la haute représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, lors de la célébration par l'Assemblée générale des Nations unies de la Journée internationale contre les essais nucléaires. Alors, je vous encourage à vous abonner à ça, l'infolettre des Nations unies. C'est gratuit. Et puis, comme localement, là, le 9 septembre prochain, ici à Sherbrooke, au Centre culturel Le Parvis, sur la rue du Conseil, il y a les Amis de la Terre qui s'en viennent discuter avec vous, là. De nos terres agricoles qui disparaissent, ils souhaitent en parler, OK? Fait que c'est une très bonne chose. Par ailleurs, Sherbrooke Gaza nous dit qu'il va y avoir une manifestation le vendredi 5 septembre à 15h30 à la place de la cité coin King Cameron. C'est parce que on veut dénoncer toutes les organisations israélo-canadiennes qui ont un statut d'organisme de bienfaisance et qui financent le génocide et les crimes en Palestine avec l'argent des Canadiens. L'ARC, qu'est-ce que c'est l'ARC? Ils ne disent pas, mais en tout cas, c'est pas grave. Doit leur retirer leur statut comme elle le fait avec la fondation, le Fonds national juif. Financer le génocide n'est pas déductible d'impôts, disent Gaza Sherbrooke. Comme autre nouvelle, j'ai Médard Gable, ça c'est un étudiant de Buckminsterfuller qui a grandi, puis qui est rendu un adulte autonome, qui nous propose maintenant le nouveau World Game. Parce que Buckminsterfuller, une des inventions qu'il a faites, c'est le World Game qui a remplacé le War Game. Donc, tu sais, le War Game, vous savez que ce sont les généraux des guerres qui planifient les guerres, là. Leur but, c'est de tuer le plus grand nombre possible de gens, le plus vite possible, peu importe le coût. Alors, le World Game, c'est comment assurer un bon niveau de vie pour toute l'humanité ou au moindre coût possible en énergie et en matériaux. Fait que trouvez votre scénario, tu sais, essayez votre meilleur scénario pour le faire. Alors, si vous avez le goût de participer à ça, pitonnez sur Internet New World Game et devenez membre. Fait que vous allez avoir la possibilité de tester votre propre scénario pour un futur positif. Et si vous avez le goût aussi, vous pouvez écrire un scénario de à peu près 500 mots, pas 500 pages, et le faire parvenir peut-être au bureau de CFAQ pour que je le lise en ligne. C'est quoi votre vision d'un futur positif? Et moi, je dis précisément là, d'un futur positif déjà atteint, pas en vue de l'atteindre. OK? Fait que quand un futur positif déjà atteint, c'est comment vous vous sentez dedans? Ça ressemble à quoi? Puis, comme autre nouvelle, c'est de ICANN France Newsletter. Tu sais, c'est bon français. Ils sont bilingues avant nous autres. Là. ICANN, c'est l'International Campaign Against Nuclear Arms. Fait que j'ai reçu un bulletin de nouvelles de ICANN France. Je vous suggère aussi de vous abonner. On nous dit là-dedans qu'il y a 98 villes et collectivités territoriales signataires de l'appel pour que les villes supportent le traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors, ils ont tout un document qui vous montre comment faire, là, si vous voulez faire ça au Québec. Je vous annonce qu'il n'y a aucune ville au Québec qui a signé un traité d'interdiction des armes nucléaires pour soutenir ce traité-là. Moi, j'ai demandé au conseil municipal de le faire en me faisant aider par les artistes pour la paix. Et puis, je n'ai pas encore eu cette signature. OK. Fait que, autre nouvelle, il y a quelqu'un qui m'a parlé, je pense que c'est le directeur de CFAQ, qui m'avait dit que le film Amour Apocalypse, c'était intéressant. Alors, je suis allé le voir avec ma compagne qui est ici dans le studio et qui fait un peu de bruit des fois. Ça passe dans le micro. Fait que, mais ça nous réveille, c'est très bon. Alors, Amour et Apocalypse, c'est excellent, excellent. On voit un monsieur, je dirais pas que c'est un homme très jeune, mais il a une très grave maladie d'éco-anxiété, mais elle est basée sur la réalité, tu sais. Il est très savant sur ce qui se passe pour le vrai. Alors, il est éco-anxieux. Et puis, finalement, il tombe amoureux, puis ça finit très bien. Donc, c'est ça. Ça ne règle rien sur le, écologiquement parlant, mais ça règle tout son problème émotif d'être en amour avec quelqu'un. Cependant, ce qui m'a frappé beaucoup dans ce film-là, moi, c'est qu'on entendait des voix, une voix surtout, une voix qui calmait le corps et l'esprit. Et puis, à la fin du film, dans le générique, il y avait Christophe André. Moi, ça se donne que je le connais, pas personnellement. C'est un psychiatre qui a écrit beaucoup de livres sur la méditation. Fait que j'ai cherché ses livres, j'en ai trouvé deux, là. Puis, je vous lis un peu. Un des livres, c'est « Méditer jour après jour », qui pourrait être intéressant pour vous. Et ça l'a été pour moi. Et l'autre livre, c'est « Les états d'âme, un apprentissage de la sérénité ». La bonne humeur, la paix intérieure, la confiance, la sérénité, et aussi le cafard, l'inquiétude, la nostalgie, l'agacement, le désespoir. C'est un mélange subtil d'émotions et de pensées. Nos états d'âme sont le cœur battant de notre lien au monde, dit le psychiatre Christophe André. Toujours présents, toujours influents, ils accompagnent chaque moment de notre vie. Ce livre va vous aider à les comprendre, à les moduler, savoir descendre en soi, accueillir ces états d'âme et les faire évoluer peut tout changer dans votre vie. Et vous guider alors vers un petit peu plus de bonheur, de sagesse et de sérénité. Voilà, c'est ce à quoi m'a amené le livre, le film Amour et Apocalypse, que je vous encourage de voir, si ça joue encore. Et puis, comme autre nouvelle très, très pertinente, là, doublement pertinente, parce que j'ai reçu une autre infolettre. C'est de Earth for All. E-A-R-T-H. Le chiffre 4 est A-L-L. Alors, moi, je connais ça. Si je reçois l'infolettre, ce n'est pas par hasard, parce que je me suis abonné. Quelle est bonne cette eau que je viens de boire. Merci beaucoup. À Sherbrooke de fournir l'eau. Et merci à la nature de nous en donner. par vos nuages et tout ça. Alors, Earth for All, je reçois l'infolettre. Et puis, j'ai ce livre-là, moi, en anglais. Je le cherche et je ne le trouve pas. Alors, je n'ai pas le temps de niaiser parce que c'est hier. J'ai le goût de vous en parler. Là, je cherche à la bibliothèque municipale. Il y en a un, je vais le chercher. Je l'ai en ce moment. Et je me suis rendu compte qu'il est aussi à l'université. Alors, vous pouvez le lire ici en le prenant à l'université. Alors, moi, je trouve que ça fait suite à Buckminster Fuller. C'était en 2022. Donc, c'est 42 ans plus tard. C'est un rapport du Club de Rome. Le Club de Rome, en 1972, c'est eux le premier qui ont parlé de la décroissance. Alors, je trouve ça très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux scénarios là-dedans. Le scénario « trop peu, trop tard », c'est ce qu'on fait en ce moment. Et il y a une analyse de ce scénario, là, c'est quoi les conséquences. Et puis l'autre scénario, c'est un « pas de géant ». Comment c'est-tu ça? C'est-tu bien ça, le mot? En tout cas, c'est ça, c'est « pas de géant ». C'est le deuxième scénario. Puis il est analysé, puis c'est celui qu'on voit, que c'est celui qu'on devrait prendre. Il y a un appel à l'action à la fin. Alors, je vous suggère très fortement aussi de lire ce livre qui est une suite au livre de Buckminster Fuller de 1980. Mais comme autre suite en 2020, il y a eu le rapport de Kate Raworth qui s'appelle « La théorie du donut ». Alors, ça ressemblait à... C'est une économiste qui parle, OK? Alors, Buckminster Fuller, c'était un ingénieur industriel... un poète, un architecte. Là, l'économiste parle et puis dit, 40 ans plus tard, que par la théorie du donut, qu'on peut dire aussi la théorie du beigne, nous pouvons agir comme si la société était un beigne. Alors, le milieu du beigne, si on le coupe, c'est là qu'il y aurait une zone juste et sûre pour l'humanité, qu'il devrait y avoir une zone juste et sûre pour l'humanité. Et la partie du haut du beigne, c'est le plafond écologique qui est constitué de 9 limites à ne pas dépasser. Très malheureusement, 6 sont déjà dépassées et si possible, on va essayer de reculer. Et puis, la partie du bas, c'est le plancher social qui est constitué de 12 besoins pour les humains, incluant le besoin de paix. Si je dis besoin de paix, c'est parce qu'il va y avoir un thème dans cette émission, ça va être la paix, là. Pour laquelle je vais faire à peu près 4 émissions, parce que c'est vaste et profond. Donc, il y a 12 besoins à satisfaire, ce qui constitue le plancher social, qui, ajouté au plafond écologique, constituerait une zone juste et sûre pour l'humanité. Fait que je vous encourage à lire ce livre-là. Et en anglais, il y a également une infolettre. Comme vous savez, vos ordinateurs peuvent traduire en français, là. Alors, l'infolette, c'est Deal. C'est, comment ça s'appelle, donc, Deal? C'est Donut Economy Action Lab. D'accord? Donc, très important, très intéressant. Puis, il y a eu un autre économiste, tout de suite après ça, qui a écrit le livre « Et si la santé guidait le monde », c'est Éloi Laurent. Lui a beaucoup de respect pour le livre dont je viens de parler, c'est « La théorie du donut » de Kate Raworth. Mais à son avis, c'est trop disparate. Et il faut unifier tout ça. Puis pour unifier tout ça, lui a eu l'idée d'une boucle sociale écologique. Alors, un autre livre que je vous suggère de lire, c'est de Éloi Laurent. Et si la santé guidait le monde. Et puis, l'autre jour, le 25 août, il y a eu une émission de Patrice Roy à Radio-Canada. Une infirmière revenue de Gaza disait ceci, « C'est inhumain et c'est créé de toutes pièces. » C'est le désastre et la catastrophe, là. « C'est inhumain et c'est créé de toutes pièces. » Moi, je me suis dit, oui, c'est vrai ce qu'elle dit, mais ça m'a fait penser que si le mal peut être créé de toutes pièces, le bien peut aussi être créé de toutes pièces. Alors, justement, ça m'a rappelé une neuroscientifique qui a écrit un livre qui s'appelle « Beau, bien, bon », dont j'ai parlé quelques fois, cette émission, parce que pour elle, en imaginant le beau, ça crée des hormones dans le cerveau. En s'appliquant pour réaliser ce beau, pour bien faire ce beau, là, ça crée d'autres hormones. Et puis, en partageant ça fait le bon. Beau, bien bon, vous avez la dopamine, l'ocytonine et la sérotonine qui sont créées dans le cerveau. Et pour finir le gâteau, vous finissez par les endorphines qu'une bonne marche peut vous créer dans le cerveau. Alors avec ça, vous avez votre dose de drogue auto-stimulée. Ocytocine. Et puis, en faisant le beau bien bon, vous avez une sorte d'unité où vous pouvez créer quelque chose qui vous intéresse et ça peut vous aider. Là, je tourne les pages. Je vous dis que au conseil municipal, je vous encourage à prendre des actions locales. Vous pouvez aller au conseil municipal. Moi, je vais y aller bientôt. Et je vais demander une ville sans perturbateurs endocriniens. Il y en a en France, il y en a pas au Québec. Et sans polluants organiques persistants. J'ai déjà demandé une communauté bleue. Il y a 40 villes au Québec qui font partie des communautés bleues. Ce sont des communautés qui prennent soin de l'eau. Et puis, j'ai déjà demandé que la ville signe, comme je disais tout tantôt, un appui au traité d'interdiction des armes nucléaires. Et je me propose de demander aussi que la ville fasse partie du réseau des villes relationnelles. Alors, ça existe, le réseau des villes relationnelles. Je vais en parler plus tard dans une autre émission. C'est pour combattre l'épidémie de solitude, parce que vraiment, on dit qu'il existe une épidémie de solitude. Et puis, je ne sais pas si vous avez eu peur de l'IA. Si on nous dit que l'IA pourrait, qui est déjà pas loin, aussi intelligente que nous, pourrait devenir plus intelligente que nous et nous contrôler. Et monsieur, lorsqu'il y a eu une émission sur les écrans, les enfants et les écrans à Radio-Canada récemment, il y a un monsieur, c'est Biogène, quelque chose comme ça, qui fait de la recherche sur l'IA pour essayer d'éviter qu'elle nous contrôle. Et puis moi, je me suis dit qu'on pourrait compléter l'intelligence artificielle par une plus grande formation sur qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que l'intelligence interpersonnelle, qu'est-ce que l'intelligence intrapersonnelle et quelle intelligence kinesthésique. Ça fait partie du cadre de la théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner. C'est une théorie qui n'a jamais été employée beaucoup dans les universités et j'espère que les universités vont utiliser les intelligences émotionnelles, interpersonnelles, intrapersonnelles et kinesthésiques, autant que visuelles, pour aider à mieux comprendre la matière et puis aussi dans nos vies, compléter l'intelligence artificielle par ces sortes d'intelligences. Et comme bonne nouvelle, comme source de bonne nouvelle, je tiens à vous dire qu'il existe un réseau qui s'appelle le Good News Network. Moi, je reçois 4 bonnes nouvelles par jour, 2 autres même. Alors, vous pouvez vous abonner. Et il y a aussi le groupe GRIST, G-R-I-S-T, qui en donne. Puis, il y a Positive News Network, une fois par semaine, qui en donne aussi. Alors, comme vous ai dit, on peut se reprendre pour créer un beau futur positif. Ça va toujours? Alors, on va mettre un petit peu de musique et je vous reviens tantôt.
J'irai me jeter dans la rivière. T'es parti trop longtemps. Oublier ma vie de misère. Y'a plus rien. Seul au comptoir, jusqu'au
tyvärr i ofyr, mamma.
C'était Sale Barbe, un petit peu découragé. Puis, dans la même veine, je vais vous lire un petit bout de poème d'un poète palestinien qui s'appelle Mahmoud Darwish. Le titre de son livre, c'est « Comme des fleurs d'amandier au plus loin ». Je vous lis un extrait. « Dans un monde sans ciel, la terre se change en gouffre, et le poème est un présent de la consolation. Une qualité des vents, qu'ils soient de sud ou de nord, ne décris pas ce que la caméra discerne de tes blessures. Crie pour t'entendre et crie pour savoir que tu es encore vivant et vivant, que la vie sur sa tête est encore possible. Invente un espoir pour les mots. Crée un point cardinal ou un mirage qui prolonge l'espérance et chante, car le beau est liberté. » Je vais vous lire d'autres poèmes de Darwish dans d'autres émissions. Alors, là, je reviens au livre qui m'a étonné. Earth for All, la Terre pour tous. Je vais parler de ça un petit peu encore quelques minutes. Là. Tout d'abord, ce matin, j'ai envoyé un courriel à les Mères pour la paix. Il y a 8300 villes dans le monde qui font partie des Mères pour la paix. Sherbrooke en a déjà fait partie, mais elle n'a pas renouvelé son membership, peut-être parce qu'elle trouvait que ça coûtait trop cher. Il y a aussi un réseau de 8800 villes qui s'intéressent à l'écologie. Fait que ces deux réseaux-là, je vais les rejoindre puis je vais leur suggérer de lire ce livre-là ou bien, s'ils l'ont lu, leur demander ce qu'ils en pensent. Et puis, ce matin aussi, je voyais l'Institut des futurs souhaitables. Alors, je vais leur demander ce qu'ils pensent de ce livre. OK? Fait que Cristina Figueres, elle écrit, c'est la fille d'un président du Costa Rica. Elle dit, comme avant-propos du livre « La Terre pour tous », des millions de personnes dans le monde souffrent des conséquences du chaos climatique, de la dégradation de l'environnement, des effets pervers, des inégalités. Ces crises multiples, le système multilatéral et la société civile, les ont trop longtemps définies et décrites comme si elles étaient distinctes les unes des autres, chacune nécessitant des solutions spécifiques et souvent en concurrence entre elles. En réalité, il s'agit de différentes facettes de ce que nous pourrions envisager comme une métacrise. « Earth for All », ajoute Cristina Figueres dans l'avant-propos, nous montre comment faire face à cet ensemble de crises et c'est ce qui en fait un livre si essentiel. Porté par un optimisme résolu et constant, il trace le chemin des possibles. Il ne passe pas sous silence les faits ni le contexte actuel, pas plus qu'il ne propose une vision utopique de l'avenir. « Earth for All » montre que, confrontés à des récits étroitement interdépendants, nous pouvons néanmoins éviter la montée des tensions sociales, l'aggravation des souffrances humaines et la destruction de l'environnement en opérant cinq changements de cap extraordinaire. Elle dit, par conséquent, je vous encourage, lecteurs, lectrices, surtout si vous avez des responsabilités dans votre communauté, votre entreprise ou votre ville, à vous arrêter un instant avant de vous plonger dans ce texte qui n'a pas son pareil. Retournez-vous sur vous-même, regardez-vous en face. Réfléchissez très attentivement et avec détermination au scénario pas de géant que vous devez et pouvez faire à votre échelle pour contribuer pleinement au pas de géant extraordinaire dont Earth for All nous offre si généreusement la feuille de route. Alors, Cristina Figueres ajoute, pouvons-nous parvenir à une transformation systémique en quelques décennies? Et non en quelques siècles. Earth for All a pour but de montrer que tout cela est effectivement possible. Et sans coût pour la planète, il s'agit plutôt d'investir dans notre avenir, Les pages qui suivent sont fondées sur des évaluations d'experts étayées par les modèles dynamiques. Ça va? Pas trop endormi? Vous sentez-vous énergisé? J'ai le but de vous énergiser. Alors, vous devinez peut-être que je suis accompagné par quelqu'un dans le studio. Vous venez peut-être de l'entendre tousser, ça passait sûrement dans mon micro. Puis tout à l'heure, là, vous aviez un micro, et puis je l'ai mis à off. Alors, Hélène, tu es là. Merci d'être là. Et puis, bonjour à Louise, d'ailleurs, qui m'écoute peut-être, la sœur d'Hélène. Et bonjour à William, leur fils, qui est assez jeune, qui, à mon avis, devrait écrire un scénario sur un futur positif parce qu'il est très intelligent et a une belle plume. Alors, j'ai hâte de lire ces phrases sur c'est quoi un futur positif. William, je t'attends. Salut. Dès 1970, l'extraction des ressources naturelles a triplé. En 2020, la Terre a franchi un seuil sinistre. Le poids du béton, de l'acier, du plastique et de tous les autres matériaux produits par les humains a dépassé le poids de toute la biomasse vivante de la planète. Ne te décourage pas, William. Jeunesse, ne vous découragez pas. Il y a moyen de se reprendre. On peut se reprendre. Nous ne présentons pas une liste exhaustive des solutions, mais plutôt certaines des idées qui, de notre point de vue, pourraient avoir le plus d'effet en un minimum de temps. Nous espérons qu'elles susciteront le débat et nous accueillerons à bras ouverts les idées meilleures que les nôtres. C'est un guide de l'avenir que nous proposons, un guide ambitieux et obstinément optimiste. Quelles sont nos chances d'y parvenir? Cela dépend, cher lecteur, de ce que vous ferez ensuite. Le scénario « pas de géant » fait bien mieux que le scénario « trop peu trop tard » dans la conduite des objectifs du développement durable et il y parvient tout en ramenant le monde dans les limites planétaires. Alors, nous présentons ces changements de cap extraordinaires dans l'ordre suivant. Pauvreté, inégalité, émancipation et autonomisation des femmes, alimentation et énergie. En d'autres termes, s'attaquer à la pauvreté accélère la lutte contre les inégalités et les progrès sur ces deux fronts contribuent à accélérer les changements de cap de l'émancipation et l'autonomisation des femmes, de l'alimentation et de l'énergie. Le monde n'est pas en train de se diriger tel un somnambule vers la catastrophe. Les gens sont bien conscients des risques colossaux que nous prenons en continuant à faire comme si de rien n'était. Parce qu'il y a eu des sondages, OK? Là, le livre nous explique les sondages. Au sein des pays du G20, 3 personnes sur 5, soit 58 % sont extrêmement inquiètes ou très inquiètes de l'état actuel de la planète. L'inquiétude a atteint son plus haut niveau chez les femmes, 62 %. Les jeunes âgés de 25 à 40 ans, c'est 60 %. Les personnes instruites, celles qui gagnent beaucoup d'argent. Et 3 personnes sur 4, 73 % pensent que la Terre se rapproche des points de bascule du fait de l'activité humaine. Celles qui vivent à proximité des grands écosystèmes vitaux actuellement menacés par le développement, comme les forêts tropicales d'Indonésie et du Brésil, sont les plus sensibilisées. On va parler des méga-feux dans une autre émission. Les gens veulent devenir de meilleurs intendants de la planète. Les gens sont-ils prêts à faire davantage pour protéger la nature et le climat? Là encore, la réponse est oui, retentissant à 83 %. Ainsi, dans les plus grandes économies du monde, la plupart des gens veulent effectivement faire davantage pour protéger et restaurer la nature. Yes, yes, on peut. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont prêts à payer la facture. La plus grande surprise de l'enquête est venue de la réponse à cette question. Voulez-vous transformer les systèmes économiques de façon à donner de la priorité au bien-être, à la santé et à la protection de la planète plutôt qu'au profit et à la croissance économique? La réponse est encore une fois un retentissant oui. Parmi les pays du G20, 74% des gens, dis-je bien, interrogés, soutiennent l'idée que les priorités économiques de leur pays devraient changer et se concentrer davantage sur le bien-être humain et la protection de l'environnement. Le pourcentage d'opinions favorables est élevé dans tous les pays du G20 et tout particulièrement en Indonésie, 86 %, et même dans les pays qui affichent des scores plus bas comme les États-Unis, c'est 68 % des gens qui sont favorables au changement. Il y a des recommandations au niveau de la pauvreté, des inégalités, des égalités des genres, de l'alimentation et de l'énergie. Alors, par exemple, donner l'accès à l'éducation à toutes les filles et à toutes les femmes, éliminer immédiatement les combustibles fossiles et développer l'efficacité énergétique. Fait que nous avons tous un rôle à jouer dans ce changement en tant que citoyens et êtres humains, personnes que l'avenir concerne. Les responsables politiques répondent aux voix qui s'élèvent et les chemins que nous préconisons d'emprunter auront besoin de l'action publique et de voix qui s'expriment à l'unisson si nous voulons changer et enclencher une dynamique que rien n'arrête. Nous avons besoin d'un mouvement porté par l'indignation et l'optimisme. Nous avons besoin d'un changement de récit. Nous avons besoin d'un dialogue qui ouvre au sein de chaque maison, chaque école, chaque université, chaque village et chaque ville. Notre appel à l'action s'adresse aussi au gouvernement. Engagez-vous à mettre en œuvre les 5 changements de cap extraordinaires et à actionner les leviers politiques qui les accompagnent. Dans votre village, votre ville et votre pays, demandez la création d'une assemblée de citoyens qui se consacre au changement des systèmes économiques. Demandez à vos responsables citoyens et politiques et locaux dans vos conseils municipaux qu'ils agissent pour que les sociétés tendent vers les objectifs de Earth for All. Si ce livre devait avoir qu'un seul effet, espérons qu'il aura su vous convaincre qu'il existe un avenir et que cet avenir vaut largement la peine qu'on y travaille copieusement. Cet avenir n'est pas une utopie parfaite qui serait dénuée de toute ombre au tableau. Mais nous pensons que les différentes voies que nous avons évoquées et discutées sont celles qui ont le plus de chances de garantir le potentiel à long terme de notre civilisation. Une civilisation merveilleuse, sans limite, inventive à l'infini, souvent déroutante et véritablement universelle, sur une planète relativement stable. Alors, c'est ainsi que je termine cette émission. Vous avez bien compris que on peut avoir un futur positif et je vous encourage à y travailler et à le lire, le livre Earth for All, Terre pour tous, pour donner, tu sais, un premier pas. Là, et puis, on va discuter de ça le prochain semestre sur tous ces angles. Puis moi, j'ai des angles dont le livre ne parle pas. Par exemple, la paix, la réforme de la démocratie, l'autochtonie, la santé et l'environnement, et puis l'urbanité. Alors, mon nom est Claude Saint-Jean. Vous êtes à l'écoute de À nous le futur, entre parenthèses, en grosse parenthèse, et À nous le beau futur. Merci d'avoir été là. Ça fait un petit bout de temps, comme 4 semaines que je n'étais pas là. Puis je pense qu'il y a quelques boutons que je n'ai pas touchés, que j'aurais dû fermer. Je le constate à l'instant. Le micro 2, le micro 3 étaient ouverts. Alors peut-être que ça vous a dérangé quelquefois. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien avoir passé une bonne semaine. Portez-vous bien. Salut.